Voilà, vous dites donc, voilà, vous êtes revenu exprès.
Donc je suis revenu avec mon assistant, on est revenu pour découper le cercle, c'était prévu dès le départ.
D'accord.
On ne l'a pas fait au départ parce que c'est la première fois que je fais des structures aussi fragiles avec du papier journal.
Ouais.
Et on ne savait pas trop comment ça réagissait dans le temps. Avec quand on a fait l'installation, il pleuvait à mort et donc il y avait beaucoup d'humidité. Après, il a fait très sec. Et donc, comme on ne savait pas exactement comment tout ça allait réagir, on a dit, on fait la première installation et ensuite on revient pour découper le cercle. L'idée même de début, c'était celle-là, c'était d'avoir deux cercles superposés.
D'accord.
Un à l'intérieur de la structure et l'autre à l'extérieur sur les deux faces avant.
D'accord.
Et donc jusqu'à présent, les faces avant étaient fermées.
Ouais.
Avec en anamorphose un cercle sur les deux faces. On peut voir sur les dessins préparatoires. Il y a les dessins préparatoires, mais j'avais prévu déjà ça. Le premier cercle a été fait en cours de construction sur les deux faces arrière et sur le toit.
D'accord.
Et ensuite, on a fermé les deux faces avant et on a retracé du même point de vue un autre cercle qui, spatialement, font identique.
Ouais.
Sauf que celui de l'intérieur, quand on rentre, il est tellement déformé qu'on peut pas le percevoir comme un cercle. On est venu découper le cercle extérieur pour voir le cercle intérieur.
Ce cercle,
il est fait suivant le principe de l'anamorphose. Donc le cercle est anamorphosé à partir du point de vue d'où je fais la photographie.
Exactement.
Et donc quand les quatre faces étaient construites et le toit et le plafond, on ne pouvait pas le voir comme un cercle, mais pour ceux qui sont initiés, on sait que c'est un cercle, mais il ne peut pas apparaître comme un cercle puisque
il y a une excroissance.
Ça ressemble à un cercle, mais déformé, ça ressemble
à... Mais du coup, de loin, effectivement, on voit un cercle.
Et quand on est... Maintenant, si on se redéplace, si on va vers le point de vue, plus on approche du point de vue, et plus on voit exactement le cercle qui vient s'encastrer maintenant dans l'ouverture, dans l'entaille qu'on a faite.
C'était magnifique.
Ouais. Absolument.
C'est très bien.
Sur les dessins préparatoires, déjà on le voit. Ça, c'est donc ces dessins ont été faits avant de faire l'installation.
C'est très beau d'ailleurs.
Et je me demandais le cercle, où c'est qu'on va, je vais le positionner et est-ce qu'il va sur le sol ou est-ce que, comme ici, je le fais un peu plus haut. Après, quand j'ai décidé de laisser traverser l'espace par les gens, je me suis dit c'est mieux de ne pas le mettre au ras du sol, mais de le mettre un peu plus haut.
D'accord.
Ici, ce qu'on voit, c'est le sol, les murs du fond et le toit avec le premier cercle.
D'accord.
Et ensuite, j'ai dessiné les faces avant.
Ouais.
Et le cercle sur les faces avant qui vient se raccorder avec celui-là.
Ouais.
Qui est en fait celui-là.
Ouais.
Qui est celui de l'arrière.
D'accord.
Oui. Et quand on a fait réellement la construction, à cette étape-là, j'ai fait une photo pour qu'on voit le cercle à l'intérieur.
Parce que c'est vrai que,
qu'on ne peut pas voir comme un cercle, puisque il faut être sur le point de vue, et une fois qu'on masque les faces avant, on ne peut plus voir l'intérieur.
Ah oui.
C'est la photo d'ici, où on voit donc les deux faces avant, qui se raccordent avec le petit bout qui est à l'intérieur.
Oui, absolument.
Voilà. Mais le cercle intérieur, on ne peut pas le voir, puisque les faces avant sont occultées.
Bien sûr.
Ouais, voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, on est venu découper les faces avant pour avoir un cercle vide et l'autre plein, celui qui est à l'intérieur.
Voilà.
Et les deux se superposent sur le point de vue.
Donc, on pourrait dire que derrière la première anamorphose s'en cachait une autre.
Il y a deux anamorphoses, exactement.
Il y a deux anamorphoses.
Une à l'intérieur et une extérieure.
Très beau.
Ouais.
Ouais. Et.
Alors après, il y a l'histoire de la cabane,
ouais.
Cette maison qui est une pyramide tronquée,
d'accord,
qui qui fait 6 mètres à la base et 5 mètres de hauteur et 5 mètres d'arête au sommet.
Ouais.
Et toute cette construction est faite avec du papier journal dans lequel on a supprimé les images.
Voilà.
Donc il y a un geste iconoclaste au départ.
Oui, j'ai pensé à
qui est d'interroger en fait l'image dans la presse, quelle signification elle a. Et d'abord, a-t-elle une signification?
Ouais.
Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle n'est pas utile? Voilà, donc c'est ce questionnement que je pose en supprimant les images pour ne garder que du texte. Ce qui tombe bien, puisque ici nous sommes dans un endroit de la poésie et de la parole et du mot, et donc c'est ça qui reste. J'ai utilisé des journaux locaux, mais des journaux nationaux et internationaux,
pour
faire dialoguer les
langues.
Les langues.
Voilà. Comme une petite tour des Babel.
Et j'ai souhaité que, puisque cet objet est monumental dans cet espace qui est encore plus monumental, j'ai souhaité que les gens rentrent à l'intérieur, se confrontent à cet espace qui évoque plein de choses quand on est dedans et quand on a envie en fait de passer un moment à s'interroger sur le sens de tout ça.
Alors justement, dans mon article j'en parle de ça, on pourrait questionner pourquoi vous avez tenu à montrer des images obscurcies. On peut très bien supposer que vous auriez pu prendre que des pages de texte. Ça serait possible.
Non, il n'y a pas de pages de texte. Pratiquement, il y en a pas, à part le sport, la bourse.
Voilà.
Mais non, même pas le sport, la bourse
quand même
les pages nécrologiques.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez tenu ou pas à montrer des images obscurcies?
Oui.
C'est ça.
Oui, c'est ma volonté de supprimer les images parce qu'elles n'ont pas d'utilité pour moi.
Oui.
Et souvent, elles ne disent rien. Voilà. Donc, j'ai supprimé les images parce que pour moi, elles n'ont pas lieu d'être. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a beaucoup. Et du coup, ça devient un élément graphique qui est intéressant dans ma construction. Et je dirais même que quand finalement j'ai fait la première installation, j'ai trouvé qu'elle renvoyait beaucoup au suprématisme de Malevich.
Exactement.
Et oui, c'est incidemment, disons que je n'ai pas fait un clin d'œil à Malevich. C'est en supprimant les images, d'un seul coup, je vois qu'il y a quelque chose du suprématisme à l'intérieur.
Ouais.
Lequel a fait donc le carré noir sur fond blanc, et il a fait, on le voit à un moment donné, il fait une sorte de mise en scène de sa mort avec des rectangles noirs partout dans l'espace, ces tableaux.
Ah ouais.
Et du coup, disons que moi, dans mon inconscient, ça me renvoie à ça, mais voilà, c'est par accident que je fais du suprématisme. Moi, je suis photographe au départ.
Oui.
Et donc, un jour, je vais à Beaubourg, au centre Pompidou. C'était l'exposition Malevich. Je tombe sur le carré blanc sur fond blanc. Et d'un seul coup, j'ai comme un électrochoc qui me fait penser, mais. C'était en 1912. Comment en 1912 on peut arriver à ce tableau aussi minimal, aussi réduit,
ouais.
Alors qu'il y a eu toute une histoire de l'art antérieurement, mais ensuite il y a l'art a continué à se développer, à évoluer. Et donc, c'est la question électrochoc qui fait que, d'un seul coup, je me passionne pour l'histoire de l'art, pour l'histoire de la peinture, et que donc Malevich a une place très importante dans mon histoire.
C'était quand cette exposition pour vous ?
C'était à l'ouverture de Beaubourg, presque, en 80. Alors, ça devait être en 80.
D'accord.
Beaubourg était ouvert avant, donc c'est entre 78 et 80. Et quand je vais à Beaubourg, je vais voir, bien sûr, les Malevich. Il y en a un, c'est un morceau de plâtre, un carré noir sur fond blanc en plâtre.
Ouais.
Je vois ça.
Ah oui.
J'ai vertige.
Carrément.
Oui. Ah, ouais. Je pense que c'est magique, c'est merveilleux. Ça renvoie à l'univers, ça renvoie à plein de choses. Et finalement, c'est ça peut-être que j'ai perçu à ce moment-là, et c'est ça que j'ai envie de créer, d'inventer dans mes œuvres. C'est quelque chose physique qui naît avec le...
D'accord.
Vous voulez... Pas seulement intellectuel, mais pour moi, j'ai vu par exemple deux expositions de Rothko.
Ouais. J'avais vu ce qui se passait. Hein?
Et après, j'ai vu d'autres à Houston, j'ai vu la chapelle Rothko, j'ai vu aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits.
Ouais,
Rothko, ouais. Ouais. Et en tout cas, c'est aussi cette période-là de l'art américain que j'ai trouvé passionnante avec Rothko, Barnett Newman, Pollock, toute cette génération de peintres où la toile devient spatiale, elle devient très grande, monumentale, et traduit une notion d'espace et d'univers. Voilà.
Et donc en fait, vous essayez de reproduire en fin de compte sur le visiteur un effet physique de votre œuvre en fait un peu.
Bon, vous pas, direz, pas sur, le, sur le visiteur incidemment, parce que c'est égoïste. Moi, je suis juste un artiste.
C'est déjà beaucoup, hein,
d'être un artiste comme vous. Et pendant longtemps, pendant 10 ans, je voulais pas que les gens viennent dans les lieux voir les installations.
Ah oui?
C'était l'image qui devait produire ce que l'œuvre produit dans l'espace.
Ah oui, vous montriez que les photos alors.
Il n'y avait que les photos. Et en fait, comme le numérique n'existait pas à ce moment-là, pour les gens qui voyaient mes photos, c'était évident que c'était une installation faite dans un lieu qui était photographié.
Voilà.
Et alors, la perturbation est venue quand le numérique a commencé à se développer, parce que les gens, les jeunes surtout, voyaient juste un bidouillage sur l'ordinateur pour faire un rond... Et l'espace donc disparaissait, c'était la photo de l'espace qui apparaissait. Et l'intervention sur l'ordinateur pour faire une espèce de composition, de collage. Et moi, c'est pas ça, ce qui m'intéresse, c'est l'espace réel, c'est être dedans, faire ça, coller mes papiers journaux. Et ici, c'est l'atelier, c'est. Voilà, donc c'est ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai commencé. Pour détourner cette idée de manipulation informatique, j'ai commencé à faire des installations dans des lieux publics, de façon à ce que les gens se confrontent directement à l'espace.
Voilà. D'accord. Parce que quand on lit le fascicule qu'on distribue quand on visite, on a une citation de vous qui dit que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la prise de vue. Donc on pourrait supposer que ce qui vous intéresse pour cette installation, finalement, de faire une photo. Mais pas seulement, en fait.
Au départ, oui, puisque je suis photographe au départ. Ouais. Je photographie des espaces que je transforme, sauf que je suis le seul visiteur, le seul spectateur du
ouais.
lieu.
Ouais.
Mais les gens, quand même, vraiment, à ce moment-là, à cette époque-là, en voyant la photo, comprenaient que c'était un espace, ils se projetaient mentalement dans l'espace.
D'accord.
Alors qu'avec l'informatique, ils se projettent plus du tout.
Ouais.
Donc, moi, ce qui m'intéresse, peut-être c'est comme ça que je l'ai exprimé dans ce que vous avez lu, c'est que quand on est devant une photo, on se projette mentalement à l'intérieur et on commence à déconstruire l'espace parce qu'on voit bien que ce n'est pas un bidouillage collé sur un lieu, mais que c'est réellement un espace. Et le fait de comprendre que c'est un espace réel qui est photographié, aide à se projeter mentalement à l'intérieur.
Donc, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est quand même aussi une sculpture, du coup ?
Ça, oui, c'est une sculpture.
Ouais, d'accord. Okay. C'est bien ce que je dis aussi.
Oui, ça me paraissait nécessaire. J'aurais pu le dire. On fait ça, je fais ça, ma photo, et puis on détruit tout, on enlève tout.
Ouais.
Et les gens arrivent ici, ils voient un truc incompréhensible. Hein, donc, c'est... J'ai trouvé que c'était pas cohérent. Il fallait. Et de toute façon, ici, c'est pas un vrai musée non plus.
Non.
Je pense que c'est bien d'accompagner une exposition avec une installation. C'est didactique, mais en même temps, les gens comprennent tout de suite. Alors que si je supprime l'installation, ça devient un truc abstrait. Ça m'est arrivé. Au Japon ou dans d'autres pays, je fais une exposition, les gens passent devant les œuvres parce qu'ils n'ont pas cette sensation, cette notion d'espace. Ouais. On n'intervient pas parce que c'est une image plane et il faut faire un effort pour se projeter à l'intérieur, surtout un effort rendu difficile à cause de l'informatique.
Ouais.
Et donc je fais une installation, et dès qu'ils voient l'installation, ils comprennent. Et d'un seul coup, ils regardent les œuvres de manière totalement différente. Ouais. Et du coup, bon, j'ai pris l'habitude, et en même temps, ici, c'est quand même une confrontation difficile. Le lieu est monumental, il est très riche, il n'a pas besoin réellement de moi pour exister. Mais en même temps, je suis quelqu'un du 21e siècle maintenant, et un espace comme ça, j'ai envie de le posséder, c'est ma manière de le posséder.
Donc justement, comment vous voyez la relation entre votre pièce et la salle alors du coup?
Mon installation, elle existe telle qu'elle est parce que le lieu est inaccessible pour moi.
Ouais.
Tout est classé monument historique, on a le droit de toucher à rien. Et à partir de ce moment-là, c'est un autre mécanisme qui s'est développé. Et donc, j'ai décidé de créer mon espace. Un sous-espace, mais ce n'est pas péjoratif, c'est l'espace dans l'espace.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est mon atelier.
C'est
chez moi. On m'a demandé de venir, d'aller parler de mon travail et tout ça. J'ai dit non. Si je dois parler, c'est ici, parce que c'est ici que ça se passe. Ouais. Ce n'est pas dans une salle de conférence ou dans un musée.
Ouais.
C'est véritablement ici, je me sens chez moi. Hein,
ouais.
Je me suis approprié cette partie de l'espace pendant un temps. Après, c'est l'image qui va renouveler cette appropriation pour moi, mais pas seulement pour vous, pour les autres. Quand vous verrez dans 10 ans cette photo, vous direz, mais oui, j'étais là, j'ai vu cette installation, j'ai traversé l'espace. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais avec le souvenir et tout ça, il y a des choses qui se développent.
Ouais, ouais.
Voilà, donc le public qui vient ici, il est en même temps un petit peu la mémoire de cette installation, autant que moi.
Donc autant les monochromes, donc ils ont un double rôle, enfin d'offuscation et de en quelque sorte de
chimie. Ouais, moi j'ai bien dit iconoclaste, non?
De leitmotiv, oui, iconoclaste. Et donc du coup, par contre, les mots, ils renvoient à l'histoire ici un peu, quand même, c'est ça? Ou...
Non, les mots, ils renvoient à des histoires actuelles qui se passent dans des pays différents du monde.
Donc ils renvoient, on va dire, au chaos un peu, non? Au chaos,
plus ou moins au chaos.
Ah. Oui, oui, oui.
Parce que tout le temps, ça marque un temps, parce que les événements qui sont là, ils sont datés dans le temps. On peut lire même la date de parution des journaux.
Oui, oui, oui,
donc
voir.
Ça a commencé à un moment donné, rassemblement de rassembler ces journaux. Ça a commencé à un moment donné jusqu'à l'installation.
Vous aviez l'idée d'en faire quelque chose.
C'est une notion du temps qui est définie par les journaux.
Donc l'anamorphose dans le texte, comment
Non, l'anamorphose, non, c'est d'abord je construis de l'espace et j'utilise cet espace pour faire une installation comme je le fais habituellement dans un lieu éphémère. C'est un lieu parfaitement éphémère et volatile bientôt.
Jusqu'à quand sera là déjà la pièce?
Jusqu'au 24.
24 septembre?
Oui.
Et alors, une dernière question, après je vous laisse tranquille. Ça s'appelle Vanité. Pourquoi ça s'appelle Vanité?
Vanité, c'est en fait le titre d'un recueil de Ronsard.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Et où il parle du temps qui passe et des choses qui disparaissent.
D'accord. Voilà. Donc c'est.
Donc c'était pour hommage à Ronsard.
Ouais. Voilà. Ouais. La pièce en elle-même n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle les vanités du 17e.
Non, non. Non, non,
aucun rapport.
Okay. Bien sûr. Sauf peut-être la disparition des images. Ça peut renvoyer.
Ah oui, effectivement, de ce côté-là, on pourrait. J'ai pensé au mot iconoclaste, mais comme vous l'utilisez, je voulais l'utiliser. Je n'étais pas sûr. J'ai pensé à ça. Effectivement, il y a vraiment un côté.
C'est pas aussi radical que ça, mais quand même, c'est ça qui se présente. C'est que voilà. Toutes les images ont été supprimées.
Et donc, c'est recouvert de papier noir, c'est ça?
Non, c'est peint directement.
C'est peint, d'accord.
Oui, ah, oui. Les images ont été peintes en noir et recto verso, ce qui fait que quand on est à l'intérieur, il y a tout un jeu de transparence qui apparaît, qui est très beau. Et... Non, c'est une maison, une tente, j'ai appelé ça une tente, comme je suis très nomade, j'ai aimé l'idée de la tente, la chose, la maison, l'atelier qui se déplace,
d'accord,
qui est éphémère, qui est fragile, et c'est un peu comme ça.
Et donc là, oui, il y a une épaisseur de papier. Là.
Il y a juste une feuille de papier à chaque fois.
C'est très fragile, du coup.
Ils ont fait... oui, justement, c'est ça que c'est à la monumentalité. J'oppose la fragilité du matériel. Qui
voilà.
Est,
ouais.
C'est une feuille de papier.
En plus,
on s'est mouillé quand on les colle.
Ça ne va pas être simple à monter.
Ben, ça a été assez simple, finalement.
Ouais.
On a procédé par étapes et... non, ça a été assez simple. Ça a pris un peu de temps parce qu'il faut enlever toutes les photos. Ce sont les étudiants des Beaux-Arts qui ont enlevé les photos. Et après, donc, on a été progressivement, on a cherché une méthode pour monter tout ça.
Et c'était quoi cette méthode?
Ben, on a d'abord fait des plans.
Ouais.
Enfin, chaque face est collée au sol. Enfin, les journaux sont collés au sol,
ouais.
Il y en a un. Ensuite, on a tout monté, on a collé en haut et on a tendu en bas, on a tendu sur les côtés, voilà.
D'accord. Vous avez hissé les parois.
Non, c'est comme un voilier, ouais.
Comme une yourte, presque.
Ouais.
Ah ouais, super.
Et après, donc, il y a quelquefois le papier s'est arraché, on a refait des collages par-dessus. Quelquefois, le papier ne s'est pas tendu, ça dépend de la qualité du papier. Voilà, on trouve des éléments de phrase qui permettent de se raconter une histoire, ou pas. Hein, mais...
Ouais. Super.